Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. L'alimentation qui se fait carner ce midi, car si nous devons manger moins de viande pour préserver et notre santé et la planète, autant la choisir et en manger de la très bonne. Alors je vous emmène ce midi dans un petit restaurant parisien atypique, niché dans une petite rue du 14e arrondissement. Là, à l'angle de la rue des Plantes et de la rue Sévreau, pas très loin de l'une des meilleures boucheries de Paris, celle de Denoyer rue Boulard, se trouve Le Sévreau. En 1998, une japonaise gastronome avait entrepris de goûter tous les tartares de Paris pour désigner le meilleur de ses compatriotes, et c'est celui du Sévreau qui a décroché la timbale, d'où un soudain engouement nippon. Mais outre les tartares qui ont fait sa renommée, le restaurant d'une vingtaine de couverts a une particularité, il fait boucherie au sous-sol. Bonjour William Bernet.
Bonjour Caroline.
D'où cette émission au titre étonnant de profession boucher-restaurateur. Boucher, c'est important parce que boucher, c'est d'abord boucher votre métier avant d'être restaurateur.
Oui, j'ai fait un apprentissage dans les Vosges de 67 à 70 chez Monique et Jean-Paul Griot à la boucherie Place de la Mairie au Val d'Ajol, chez moi dans les Vosges. Et ensuite, je suis venu à Paris en septembre-octobre 70 faire un stage à l'école supérieure de la boucherie de Paris, boulevard Soult. De ce fait, je suis reparti chez moi dans les Vosges, aider ma mère parce que mon père était opéré de l'arthrose et je suis resté 6 mois à la ferme avec ma mère parce que mes frères et sœurs, on est 8 dans la famille, étaient à l'école. Moi, je l'étais plus, donc je l'ai aidé ma mère à passer l'hiver voilà, pour traire les vaches et faire les travaux de la ferme. Et
tous les travaux de la ferme, dont celui de votre père qui était castreur de taureaux et de cochons.
Oui. Comme mon grand-père d'ailleurs, on était, ça s'appelle Chetrou en patois vosgien. Et il rapportait les couilles de taureau pour manger à la maison. Ma mère faisait ça. C'était un plat qu'on trouve plus aujourd'hui parce que les taureaux sont souvent castrés trop petits, donc il n'y a pas les couilles développées. À part les couilles d'agneau, les couilles de mouton, pardon. Voilà. Et après, je suis venu à Paris en juin 71. Et depuis, je suis à Paris, donc j'ai travaillé au Nivernaise pendant...
Alors, l'Nivernaise, c'est des célèbres boucheries hein, de la famille Bissonnet.
Oui, c'est
Bissonnet,
des boucheries de la présidence de la République, voilà. Surtout à côté.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, eux ?
Là, je me suis perfectionné au métier, parce que j'ai touché à tous les morceaux, il n'y avait pas de limite. Je travaillais l'agneau, je travaillais le bœuf, je travaillais le porc. Et puis, on travaillait surtout, on livrait les belles maisons parisiennes, les grands restaurants de l'époque, Jean Drouhan, Fouquet's, Plaza Athénée, enfin toutes ces grandes maisons de Paris, et ça reste, je pense encore aujourd'hui, ça reste une belle maison, bien sûr.
Donc autrement dit, vous avez toujours été un viandard, William Bernet.
Oui, je pense que ça fait depuis l'âge de 15 ans que je mange de la viande tous les jours.
Tous les jours, mais vous savez qu'il ne faut plus faire ça.
Oui, mais de la bonne viande, on peut en manger tous les jours. Ça ne va pas développer, comme la médecine peut dire.
Vous avez l'air en forme, mais bon.
Oui, j'ai 71 ans, je pense que ça va.
Vous avez repris le Sévreau, qui est votre restaurant, en 1986. C'est à ce moment-là que vous êtes devenu restaurateur, en plus de boucher.
Oui, j'ai abandonné le métier de boucherie.
Vous avez d'abord abandonné
le métier.
Le restaurant n'a pas toujours fait boucherie au venir au sous-sol. Hein.
Oui, j'ai abandonné le métier. J'ai pris cette petite brasserie, qu'on va dire, c'était entre guillemets, un bouillon. On servait un plat du jour qui avec les produits lambda. Et à un moment donné, j'ai pris le virage dans les années 95. J'ai commencé à travailler avec les boucheries Conquet à l'Aïeul, avec la viande de l'Aubrac. Et ensuite, j'ai modifié le décor et j'ai construit mon laboratoire en 98 avec le laboratoire, la chambre froide, pour faire maturer mes viandes que je recevais des éleveurs français en direct, soit du sud-ouest ou soit de l'Aubrac et du Cantal, par exemple, également.
Mais on a le droit de faire ça, de faire restauration au premier étage et
oui, le laboratoire, l'instant où vous êtes aux normes, c'est entièrement carrelé, j'ai une table de désossage.
Vous faites pas ça n'importe comment, quoi.
Ah ben non, parce qu'en plus, la chambre froide, c'est à 0 plus 2, hein, c'est froid ventilé, c'est pas un frigo de ménagère, c'est un frigo professionnel avec...
Vous maturez à l'os, ça veut dire quoi ?
Alors, c'est les carcasses. Par exemple, un aloyau, ça comprend le rump steak, le faux filet, le train de côte, le filet, la bavette de flanchet, la bavette d'aloyau. Ça, c'est un muscle et le filet qui pèse environ entre... Ça dépend des carcasses, ça dépend des races. Ça peut peser entre 60 et 80 kilos. Si c'est une race limousine ou charolaise, ça peut peser même un peu plus. Donc ça, je fais maturer ça sur os, parce qu'une fois que c'est désossé, ça ne peut plus maturer. Alors après, soit disant qu'il y a les techniques de sous-vide, mais moi, j'ai toujours fait maturer comme ça, sur carcasse. Je coupe d'abord, j'épluche d'abord mes bavettes au bout de une vingtaine de jours, bavettes et filets de bœuf, parce que ça, c'est des morceaux très tendres. Après la rhum steak, au bout de 30 jours, le faux filet, ça peut aller jusqu'à 50, 60 jours. Et les côtes de bœuf, pareil. Ça dépend des races. Il y a des races limousine, aubrac, salaire, ça peut, ou charolaise, on peut aller 40 jours, ça va. C'est pas la peine d'aller au-delà, ça sert à rien. Mais des races plus grasses, normandes, qui ont plus de couverture de gras, ou des montbéliardes, qui sont bien persillés aussi, là, on peut aller beaucoup plus loin dans la maturation.
Qu'est-ce qu'elle permet, la maturation ?
Ben, c'est un début de putréfaction, mais
ça donne pas très très envie. Hein.
Non, mais c'est on enlève de l'eau déjà, mais c'est dirigé, c'est pas laissé dehors. Donc c'est si on laisse bien sûr des années, un an ou deux ans, ça va être tellement sec que ça n'a aucun intérêt. Mais là, on enlève 30% d'eau, donc il y a une perte à la sèche. Après, il y a du parage bien sûr parce qu'il y a des parties, les entames, on peut pas les mettre dans l'assiette du client. Donc ça va à la poubelle. Mais c'est un début, oui, mais c'est contrôlé. Hein. Ce n'est pas, on ne sert pas de viande pourrie, hein, ça, jamais.
Rassurez-vous, il y a perdu quand même. Mais ça permet qu'elle soit moins sèche, qu'elle reste
plus tendre. Ça attendrit, c'est-à-dire que les aponévroses, elles vont s'attendrir, parce qu'une bête qui a 3 ans, ça a moins besoin de maturer, mais une bête qui a 8 ans, il faut que les muscles se remettent en forme, que les enzymes travaillent entre eux, pour maturer la viande, pour attendrir cette viande.
Vous parliez de races différentes, la blonde d'Aquitaine, la limousine, la garonnaise, la normande, la montbéliarde, etc. Votre viande vient d'où ?
Alors moi, j'ai un abattoir qui travaille à Villeneuve-sur-Lot.
Donc en France ?
En France, oui. Après, j'ai des viandes qui viennent d'Allemagne, effectivement, de la Simmental. Alors Simmental, c'est une race suisse d'origine. Mais je travaille à la Simmental parce que c'est une viande un peu plus persillée. Et donc j'ai un fournisseur à Rungis qui fait que de la Simmental qui vient d'Allemagne ou d'Autriche également. Hein. Ça c'est l'Europe quand même. Hein.
Oui, mais on a l'idée quand même que la viande d'Allemagne et d'Autriche, ça n'a pas la même qualité que la viande française. Est-ce que c'est à tort ?
C'est les bêtes
vous qui sélectionnez vraiment par vos soins les viandes.
Alors à Rungis, oui, j'ai quelqu'un qui me sélectionne. Et qui, en fait, j'ai pas n'importe quoi. C'est les bêtes qui n'ont pas été perturbées par le lait déjà. Qui ont bien été bien élevées. Parce qu'une bête mal élevée, de toute façon, elle ne peut pas rentrer chez moi, parce que soit elle est fiévreuse, soit elle a été perturbée par le lait, donc c'est dur. C'est une viande qui ne va pas convenir à mon restaurant.
Ça veut dire quoi, bien élevée, alors ?
Bien élevée.
Quels sont vos critères ?
Ben, pas de stress, surtout à l'abattoir, déjà. Pas de stress en transport, et pas de stress dans toute cette période de vie. Une bête qui a été malade, qui a été maltraitée, elle arrive à l'abattoir, elle ne sera pas bonne et elle va être fiévreuse, souvent. Alors ça, c'est souvent au changement de saison aussi. Été, automne et printemps, là, par exemple. En ce moment, on peut avoir des viandes fiévreuses parce que c'est le changement de température qui fait que les bêtes sont un peu stressées par le changement de température et de nourriture aussi. Elles passent de l'herbage, du foin à l'herbage ou de l'écurie dehors.
Et donc, vous faites aussi attention aux conditions d'élevage, c'est-à-dire à ce qu'elles mangent ?
Là, il y a 3 semaines, j'étais chez deux éleveurs dans l'Orne, parce que maintenant, je travaille aussi avec un 13 éleveurs qui sont dans la Sarthe et dans l'Orne. Et là, j'ai visité 2 fermes. Un des paysans, il a 120 vaches laitières normandes, pure race normande. Magnifique élevage, parce que le paysan est rentré dans son troupeau sans bâton. Mais moi, je lui dis, c'est fait attention parce qu'une bête peut charger pour X raisons. Et là, il a tellement confiance en son troupeau qu'il est rentré sans bâton au milieu de 120 bêtes de vaches laitières, mais très belles. Hein. Et là, il a élevé 4 bovins, bœuf waïgou, avec embryon japonais. Et j'ai actuellement dans mes frigos en maturation un de ces bœufs waïgou qui est arrivé la semaine dernière. Et c'est juste magnifique. Alors, c'est une bête d'exception. Parce que le prix est d'exception aussi. C'est 3 fois le prix d'un... J'ai pris les 2 ART8. La ART8, ça comprend la cuisse de bœuf avec les aloyaux. Une bête française, un bœuf français, ça vaut entre 8 et 12 euros la ART8. Là, on est sur 36 euros.
Ah oui, en effet.
Donc, mais c'est, j'ai envie de me faire plaisir, de faire plaisir aux clients. Et bien sûr, je ne vendrai pas au prix, trois fois le prix par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais j'ai envie de faire ça parce que le paysan est vraiment une très, très belle ferme. Et franchement, moi, j'ai été bluffé par ça. William, condition animale magnifique.
William Berlien, on dit quand même qu'il faut donc manger moins de viande, mais aussi c'est important aujourd'hui de savoir diversifier les morceaux. Alors, on va souvent chez le boucher et on dit, on achète un steak, je voudrais un steak. C'est important de trouver des morceaux qui sont méconnus et qu'on devrait, vous nous parlez là des pièces du bœuf notamment, qu'on devrait acheter plus souvent chez le boucher, sachant qu'en fait on peut acheter chez vous.
Non plus maintenant.
Vous faisiez ça un temps.
Je l'ai fait pendant le Covid.
Maintenant c'est que pour vous faites la boucherie, mais pour le restaurant.
Vous avez cité, il y a Hugo Denouillet qui est à côté. Il a de la magnifique viande. Je suis boucher, pas boucherie. Boucher restaurateur avec un laboratoire pour mon restaurant.
C'est-à-dire que vous faites votre propre viande pour le restaurant. Voilà. Alors parlez-nous de ces morceaux qu'il faudrait privilégier. Par exemple, si on prend le bœuf que vous faites beaucoup.
S'il y avait un morceau pour les gens pas trop cher, il y a la joue de bœuf qu'on peut faire en bourguignon ou braisé. Ça, c'est magnifique. Et ça vaut pas très cher. Faut demander à son boucher parce que c'est un morceau tripié, en fait, la joue de bœuf. Donc, faut demander à son boucher qu'il vous prenne deux joues de bœuf. Ça, c'est pour 4 personnes. Ça va un déjeuner ou un dîner magnifique. On met du vin rouge dedans pendant 24 heures. Pendant 72 heures au moins. Et après, vous la saisissez, vous la poêlez et vous mettez ça à cuire avec un bouquet garni, carottes. Et ça va vous faire un plat magnifique. Il y a le pot-au-feu aussi qu'on peut faire. Pot-au-feu avec un bon plat de côte, un morceau de paleron, un morceau de poitrine. Et voilà, ça fait un plat pas cher. Et on achète un peu plus parce que le lendemain, avec ce reste de pot-au-feu, on ferait un vrai hachis parmentier. Et non pas un hachis parmentier avec un steak haché qui est pas bon parce que un vrai hachis parmentier, c'est fait avec un reste de pot-au-feu, avec une vraie purée qu'on va faire soi-même, qu'on va pas acheter des flocons de purée dans les supermarchés. Mais là, on va se régaler avec une petite salade de roquette ou une mâche nantaise. Voilà, un plat magnifique, du surlendemain. Et le bouillon de pot-au-feu, on va pouvoir faire une jolie soupe. Et le lendemain, faire également encore une soupe pendant 2-3 jours. Parce qu'on aura mis des carottes dans le pot-au-feu, on aura mis des poireaux, des oignons, un clou de girofle. Et ça, c'est des plats pas chers. Et ça demande, une fois qu'on a mis en route ce pot-au-feu, on n'a pas besoin d'être dessus le fait tout. On va tranquillement vaquer à autre chose, à garder ses enfants, à faire des devoirs aux enfants. Et pendant que ça mijote, et le lendemain, on peut manger le pot-au-feu. Alors, quand on garde un pot-au-feu avec la viande, il ne faut jamais laisser la viande dans le bouillon. Il faut toujours tout séparer. Parce que sinon, vous faites tourner votre bouillon. Un bouillon de pot-au-feu, c'est très délicat. Ça pique tout de suite.
Vous parlez des prix, le prix de la viande en particulier, puisque vous êtes boucher-restaurateur, William Bernec. On mange donc beaucoup de viande dans votre restaurant de la rue des Plantes, le Sèvreau. Vous, chez vous, vos plats vont de 13 euros le boudin noir salade ou l'andouille de Guéméné, à 52 euros le filet de bœuf sauce poivre, frites, sachant que les frites sont bien évidemment maison.
C'est un peu
maison.
Augmenté, là, on est plus, un peu
ah,
plus
mince.
Haut maintenant.
Moi, j'étais sur des prix de l'automne, vous voyez, j'ai pas pris la carte d'aujourd'hui.
La viande a augmenté encore, et puis...
Bon, vous allez nous dire pourquoi c'est si cher le filet de bœuf sauce poivre, et puis 24 euros, ça passe par 24 euros le steak tartare frites. Je prends le steak tartare comme exemple, parce que vous êtes avant tout réputé pour votre tartare.
Le tartare, c'est une viande qu'on hache à la minute. C'est pas une viande qu'on a achetée hachée, parce que faut savoir qu'il y a des viandes hachées dans les grandes distributions qui sont hachées avec une DLC de 14 à 18 jours, si je me trompe pas. Nous, c'est haché à la minute avec un hachoir réfrigéré. Donc, la viande, quand vous arrivez au restaurant, la viande, elle est toujours pas hachée. C'est au moment où vous la commandez. On va la hacher, on l'assaisonne. Parce que nous, on sert notre tartare assaisonné. Il n'y a plus qu'à le manger. Après, si les gens veulent rectifier, rajouter un peu de tabasco ou une pointe de sel ou du poivre, ça, ils ont la disposition de le faire. Mais voilà, on a été élu meilleur tartare de Paris par les Japonais parce qu'ils retrouvent le vrai goût de la viande. C'est pas masqué.
Mais nous, on connaît le goût de la viande. Remarque, ils ont le bœuf de Kobe quand même, les Japonais.
Oui, mais pour faire un tartare, c'est trop gras. Il ne faut pas une viande grasse parce que là, le gras, il vous colle au palais. C'est pas vraiment bon. C'est pas fait pour ça.
Donc l'un des secrets de votre tartare, c'est qu'il n'est pas gras.
Il n'est pas gras. Nous, on utilise des bavettes de Flanchet, on utilise mes pointes de rhum steak. Vous savez, le rhum steak, dans tous les muscles, il y a une pointe dure. Et toutes ces pointes dures, je les passe en tartare ou en steak haché. Et également, par contre, le filet de bœuf, il n'y a pas de pointe dure. de la tête à la queue, tout est tendre dans le filet de bœuf, parce que c'est un muscle qui travaille très peu. Il est fixé sur les lombaires le long de la loyau. Et là, c'est un muscle qui ne travaille pas. Donc, il est tendre par définition. Et il est rare parce que sur une bête normale, adulte, ça fait les deux pièces font environ 6 kilos. Donc, c'est un morceau qui est très, très recherché parce que très tendre. Mais voilà, ça a un coût. C'est pour ça qu'il est cher.
Oui, d'où son prix.
C'est vous qui avez fait ça?
Et alors?
Eh, compliment, c'est du joli travail. Un cochon qui n'a pas eu à se plaindre.
Vous y connaissez?
J'aime beaucoup la charcuterie. Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette. Avec un petit vin d'Alsace. Tiens, à propos de vin d'Alsace. C'est pas du rhum que vous avez là?
Écoute, on est ici pour travailler. Si le patron veut te payer le coup, il est assez grand pour le faire, non?
Oui, mais n'y pensez pas.
Bon, bah, servez-vous et perdons pas de temps.
La traversée de Paris, film de Claude Autant-Lara avec Jean Gabin, Louis de Funès, Bourville. Bien entendu, je pense que vous aurez reconnu William Bernet.
Oui.
On parle du cochon, la charcuterie, des rognons, viande rouge, viande blanche, volaille, toutes ces dénominations, ces distinctions, ça a du sens? Tout ça, c'est de la viande? Parce que des catégories qui sont excessives?
C'est des cuissons différentes, après c'est des textures différentes. Un bon poulet fermier, la belle rouge, c'est magnifique, moi j'adore ça. Nous on en mange au moins une fois par semaine parce que j'en achète pour nous, pour le personnel. Alors quelquefois s'il y a un client qui en veut un morceau, on peut lui faire.
Mais est-ce que la volaille rentre dans la catégorie viande?
Oui, bien sûr.
Oui. Oui, on la met pas à part.
Non, c'est une viande, la volaille.
Et l'agneau, on le met dans quelle catégorie? Viande blanche, viande rouge?
Viande blanche. Parce qu'on pour une viande rouge, on dit saignant. Pour une viande blanche, le veau, l'agneau et la volaille, c'est une viande rosée. Parce qu'on peut cuire une bonne, belle volaille, les suprêmes de volaille, on peut les faire légèrement rosées. C'est très, très bon.
Vous savez qu'en ce moment, beaucoup de familles sont sans doute en train de cuisiner de l'agneau.
L'agneau
ce dimanche
Pascal.
De Pâques. Vous en faites peu, William Bernet, de l'agneau. Vous faites surtout de la viande rouge, justement. Surtout
oui,
du
parce
bœuf.
Que allez, j'en ai fait il y a longtemps, mais aujourd'hui, on est victime de notre succès sur la viande rouge, donc on fait pratiquement plus que ça. À part les abats, on fait des riz de veau, côte de veau et rognon de veau, bien sûr, et foie de veau également. Mais l'agneau, ça fait un moment que j'en ai pas travaillé, mais ça me donne une idée de retravailler avec surtout l'agneau de Lozère, pour moi, qui est un des meilleurs agneaux. D'ailleurs, j'ai acheté hier chez Hugo Desnoyers des côtes d'agneau découvertes. Pour moi, ce sont les meilleures. C'est pas les côtes d'agneau premières, mais c'est les secondes.
Les Vosges n'étaient pas une terre d'auvin?
Non, pas du tout.
En revanche, la Lozère l'est, bah figurez-vous,
la
ça Lozère, tombe bien.
La région Midi-Pyrénées.
Nous sommes au téléphone avec la vice-présidente du syndicat des agneaux de Lozère, Laetitia Tichet. Bonjour Laetitia Tichet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de ce que sont les brebis de race blanche qui donnent les agneaux de Lozère et qui sont effectivement extrêmement réputés. Pour quelle raison? Quelle est la particularité de vos brebis?
Alors, il faut savoir que nos brebis pâturent une bonne partie de l'année sur des parcours, sur des prairies qui sont extrêmement fleuries. Il y a une diversité qui est quand même assez exceptionnelle sur nos régions. L'agneau, il tète sa mère, donc forcément, il boit salé, donc quelque part, ça se retrouve aussi sur la zone de l'agneau. Et c'est un agneau jeune, puisque c'est un agneau qui n'est pas sevré, donc jusqu'au bout, il va rester avec sa mère. Et je pense que là, c'est la différence. Voilà.
En ce moment, il y a des agneaux? Parce que je vous pose cette question parce que on fête le dimanche de Pâques, c'est une tradition religieuse. Est-ce que la tradition religieuse repose sur la nature? C'est-à-dire, est-ce qu'elle tient compte de la période de reproduction des brebis? Est-ce que ça a du sens, autrement dit, de manger de l'agneau à Pâques?
Ah oui, ben complètement. J'allais vous dire, la nature est bien faite finalement, parce que effectivement, c'est une fête religieuse où traditionnellement chaque famille sacrifie un agneau. L'agneau pascal, l'agneau de Dieu, ça a une forte connotation religieuse, mais au-delà de ça, c'est devenu une tradition. Et finalement, la nature est bien faite, puisque naturellement, le strus, donc la chaleur de la brebis, se produit à la fin de l'été. Là où les jours raccourcissent, donc elle donne naissance 5 mois plus tard de son agneau. Et donc on est là sur la période de décembre, et du coup on retrouve l'agneau finalement pour les fêtes de Pâques. Voilà, c'est à boucler bouclée, j'allais dire. Voilà.
Il a quel âge l'agneau qu'on mange donc?
C'est un agneau jeune qui a 3 mois.
C'est trois mois.
Voilà.
Quelles sont les méthodes d'élevage, Laetitia Tichet, des agneaux de Lozère?
Alors, les méthodes d'élevage, donc il y a un cahier des charges qui réduit tout ça. Alors, c'est un agneau donc de pure race blanche du Massif central. C'est un agneau donc il y a une IGP, donc ce sont les territoires de la Lozère et les communes de Haute-Soire, du Cantal, de l'Ardèche limitrophe. Et c'est donc principalement de l'herbe l'été et du fourrage récolté sur nos fermes durant l'hiver, les périodes où elles ne peuvent pas aller dehors. Voilà. C'est relativement simple. C'est du foie, ce sont des céréales de complément, voilà. Et le lait de maman qui est essentiel à l'agneau, voilà.
Merci Laetitia Tichet. On va s'arrêter là, même si on aurait encore des questions à vous poser naturellement, mais votre ligne téléphonique n'est pas si bonne que cela, là-haut, sur les plateaux de Lozère. Et donc on n'entend pas très 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 bien. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi pour nous parler de vos agneaux, les fameux agneaux de Lozère. Et William Bernet est là pour en témoigner.
Oui, donc. Oui bien sûr, c'est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles races de France. Et c'est vraiment ce que la madame vient de dire, ils mangent du lait, c'est...
Alors la condition de naissance, condition d'élevage, oui, condition ça. D'abattage, tout est réuni,
oui, oui.
Pour que la viande soit de très bonne qualité.
Parce que c'est magnifique, moi j'ai vu les agneaux entiers, c'est magnifique.
Et alors justement, comme on parlait des morceaux de viande qu'on privilégie par rapport à d'autres, parce que en général on les connaît, on fait
oui,
pas tellement
le gigot,
l'effort.
Bon, alors, le carré d'agneau,
bon, qui sont les principaux vendus. Les côtes premières, c'est les carrés découverts, c'est les plus chers.
Les côtes premières,
pourtant,
c'est
il y en a d'autres.
Chers, oui,
voilà.
Parce qu'un carré première, c'est carrément 6 côtes. Vraiment, les premières, c'est 6 côtes. Alors après, il y a la selle d'agneau sur les filets, et puis après, il y a le gigot. Mais il y a aussi l'épaule et il y a aussi surtout le collier qu'on peut faire des navarins. Là, on a au printemps.
C'est le navarin de printemps.
Les navarins d'agneau. On commence avec des petites carottes nouvelles, des petites pommes de terre, des petits pois gourmands, ou même des petits oignons blancs. C'est un plat de printemps avec le collier d'agneau. On ne va pas dépenser une fortune et on va se régaler surtout. C'est un mijotage et ça va cuire très vite. Et aussi, il y a l'épigramme. L'épigramme, c'est la poitrine d'agneau.
Vous adorez l'épigramme. C'est quoi l'épigramme?
C'est la poitrine d'agneau. Et ça n'a pas beaucoup de valeur parce que les gens n'en veulent pas. C'est un peu gras, on va dire. Mais bien préparé, enlever les bouts des os de côte, enlever la partie dure du sternum. Après, il y a un peu de cartilage, mais ça, on le laisse à la cuisson. Et surtout, s'il y a un peu encore la hampe de l'agneau, qui est l'équivalent de la hampe de bœuf, et ça, vous faites retirer ça dans un lèche-frite au four. Je pense qu'un petit quart d'heure, 20 minutes de cuisson avec des petites herbes de Provence, si on veut, et un petit filet d'huile d'olive. Et là, on va se et puis une tête d'ail écrasée complètement autour, mais pas posée sur la viande. Et des petites pommes de terre. Voilà, ça va être un plat magique. Et franchement, c'est bon. Ou même des haricots tarbais, des haricots verts, tout simplement.
Vous nous proposez pour le site de l'émission Des Bonnes Choses, vous nous proposez, William Bernet, la recette d'une épaule d'agneau façon gigot.
Façon gigot, on enlève...
C'est très simple.
Oui, ça au boucher de préparer, parce que quand vous demandez une épaule de façon gigot à votre boucher, il sait de quoi on parle. Donc il va enlever l'os de palette, il va scier le petit bout d'os juste au bout du manchon, il va enlever la peau, il va la parer légèrement, et après vous mettez ça à plat dans un lèche-frite, avec un peu d'huile d'olive, des herbes de Provence si vous voulez, mais moi j'en mets pas. Et puis les tomates séchées quand c'est pas la saison des tomates, et puis une tête d'ail complète écrasée autour. Et voilà, vous avez pendant 2 heures à four froid, pendant démarrage à four froid 150 degrés, pendant 2 heures, 2 heures et demie, et c'est magnifique. Voilà un plat qui coûte pour 2 personnes, 3 personnes, ce qui va être magnifique. Et ça c'est, enfin moi je me régale avec ça.
Bon après. William Bernet, on n'est pas non plus obligé d'en manger de l'agneau, Pascal. Même Maïté, la fameuse cuisinière restauratrice qui faisait la cuisine des mousquetaires dans les années 90, même Maïté s'est laissée attendrir. Écoutez.
Mais Maïté, qu'est-ce que vous avez dans les bras? Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui?
Le plus beau bébé du monde, un petit agneau.
Eh bien, aussi adorable que ce soit, Maïté, il faut bien dire qu'on en mange, hélas, depuis toujours, hein, depuis très, très, très longtemps.
Hein. Voilà, il y a l'agneau pascal, il y a l'agneau, c'est la saison maintenant des agneaux, là, l'hiver, on mange de l'agneau, voilà.
Celui-là, on ne va pas le tuer.
Non, on ne va pas le tuer, il est trop beau.
Vous voulez lui donner un petit peu à manger, peut-être? Non, hein?
Un petit peu de bibi?
Vous m'aviez dit qu'il aimait le lait.
Tiens, moi, cher.
Vous croyez qu'il a faim?
Tu veux un petit peu de biberon? Allez, fais-moi un petit bout, allez. Allez, vite. Non, je
il n'a pas faim.
Il n'a pas faim. C'est dommage.
Et ma tant pis. Bon appétit et à bientôt.
Bon appétit et merci. Au revoir, mon petit agneau.
Voilà, Maïté en 1993.
Oui, bon, bien sûr, on peut, essayer de vivre l'agneau, bien sûr. Mais, mais après, on a une culture de manger de la viande, de l'agneau. Puis on a des très beaux élevages en France. La France, c'est un jardin. Donc on peut manger des légumes, bien sûr. Mais on peut manger un morceau de viande, de la bonne viande. Pas tous les jours, bien sûr. Moi, j'en mange tous les jours parce que, bon, voilà, c'est mon métier.
C'est par atavisme aussi, hein, voilà, c'est grand dedans.
Soit sous forme de steak haché, soit une joue de bœuf quand je fais des bourguignons pour nous, soit...
Mais ça, c'est vous, donc. Mais sinon, vous prenez pas le fait d'en manger tous les jours, non, vous le reconnaissez.
Non, non, bien sûr, on peut manger la très bonne viande, mais il faut aller chez son boucher. Plutôt que d'acheter dans les linéaires de supermarchés ou les produits transformés, d'où les contaminations, cette pizza à 2 euros. Comment on peut réfléchir à acheter une pizza à 2 euros? Qu'est-ce qu'il y a dans une pizza à 2 euros? Il faudra m'expliquer, moi, où est le produit. Vaut mieux manger une salade à ce moment-là que de manger une pizza à 2 euros. Ou des légumes, une bonne purée, un bon gratin dauphinois sans viande, ok. Mais acheter une pizza à 2 euros, non, ça n'a pas de sens.
Votre viande est tellement réputée. Alors, on a dit que c'était les Japonais qui avaient élu votre tartare, le meilleur tartare de Paris.
D'où votre présence au Japon.
D'où votre présence au Japon. Mais maintenant, vous allez aussi vous exporter en Chine. Vous allez exporter votre viande en Chine.
Alors, c'est les clients qui viennent chez moi depuis 10 ans. Et un jour, le fils, il me dit, papa, il voudrait manger Sèvres quand il est à Hong Kong et à Pékin chez lui. Je dis, tu veux pas être qu'on dépose la marque et tout. Donc j'ai déposé le nom en Chine. Le Sèvres est protégé en Chine et à Hong Kong. Et là, je vais exporter fin avril à Hong Kong de la viande européenne, parce qu'on a droit à toutes les viandes. Et à la Chine, je pense début mai, on aura de la viande donc française 100%, de moins de 30 mois d'élevage, abattue en France, dans un laboratoire agréé, bien sûr. Un laboratoire agréé, laboratoire également. Donc ça va être maturé en France. Alors comme ça va être des jeunes bovins de moins de 30 mois, on fera une maturation de 3 semaines maximum. Ça va être désossé, mis sous vide et parti pour avion. Et ça va être vendu dans des restaurants existants aujourd'hui où il y a ma ligne de viande qui va être marquée « Viande by Sèvres Paris ».
Mais on peut rester à Paris pour aller au Sèvres manger, bien on sûr. A bien compris. Une bonne viande de temps en temps. Et s'offrir donc un repas, déjeuner ou dîner au Sèvres, c'est 8 rue des Plantes à Paris dans le 14e arrondissement. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre métier de boucher-restaurateur, William Bernet.
Merci et bonne Pâques à tout le monde.
Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec Seam Boutata à la documentation, Colin Gruel à la réalisation et aujourd'hui Jean-Guilain Meige à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.